enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Les différentes onctions, cours numéro 1, cours numéro 1. Alors, ce cours, en fait, ça va être un cours de base sur l'onction en général. Je vais vous montrer un certain nombre de principes à propos de l'onction, mais d'abord, bien sûr, on va en donner la définition. On va voir les différentes onctions de l'Ancien Testament. On va voir l'onction sur Jésus aussi, parce que ça aussi, c'est très mal compris. Ensuite, nous verrons les différentes onctions du Nouveau Testament. Puis, on va reconnaître quand il y a une onction qui est en manifestation, c'est-à-dire on va voir l'onction de la prédication, l'onction pour prêcher, on va voir une onction de guérison, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça produit, etc. etc. Certaines onctions aussi un peu particulières qu'on verra. Puis on va parler aussi de quelques principes de l'onction, savoir couler dans l'onction, et aussi on verra quelques erreurs classiques. Alors là encore, je vous rappelle, ce sont des fondations, ce sont des bases qui vous permettront d'avoir des fondations, de bonnes fondations sur ce qu'est l'onction, comment ça fonctionne, mais dans les principes généraux, d'accord? Parce que dans les cours suivants, bien sûr, vous aurez des cours sur le ministère, et c'est là où on parlera beaucoup plus en détail de l'onction et la façon dont on doit se comporter dans certains cas, etc., 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 par rapport aux différents ministères. Mais ce cours-là n'est pas un cours où on ira trop en profondeur. Mais c'est vraiment les lois générales qui régissent l'onction, etc., etc. Et c'est vraiment un cours de fondation, mais un cours fondamental, parce qu'on va s'apercevoir qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas bien, justement, ces bases, ce qui fait que rapidement ils dérapent et ça les amène dans toutes sortes de trucs les plus bizarres possibles et imaginables à partir du moment où on ne connaît pas ces fondations. Vraiment, ce sont des règles qui vous permettront de garder, d'être sur la piste et de rester sur la piste. Alors, dans la leçon numéro 1, on va voir définition. Leçon numéro 1, donc définition et onction de l'Ancien Testament. Définition et onction de l'Ancien Testament. Donc définition de l'onction, hein, et puis la deuxième partie de cette première leçon, ce sera les onctions de l'Ancien Testament. D'accord ? Donc leçon qui sera divisée en deux, des définitions et l'onction, les onctions de l'Ancien Testament. Alors, première partie de cette leçon numéro 1, les définitions sur l'onction. Définition, les définitions donc sur l'onction. Alors vous savez, il faut comprendre que de plus en plus, la connaissance de Dieu se répand dans le monde entier au niveau de l'enseignement. Et vraiment, je dirais ces 30 dernières années, on peut voir qu'il y a une connaissance qui augmente énormément dans le corps de Christ. Vous savez, même des enseignements comme ça, il y a 30 ans, c'était très très difficile, si ce n'est impossible à trouver. Beaucoup d'enseignements que vous avez dans l'Institut, la plupart, je dirais, ce n'étaient pas des enseignements structurés. Alors souvent, on avait quelqu'un qu'on voyait, un évangéliste puissamment utilisé par Dieu, un pasteur qui vraiment avait beaucoup de succès dans son ministère, quelqu'un qui avait beaucoup de résultats dans la guérison, etc., etc. Et on voyait ces gens-là, on pouvait aller dans leurs réunions, etc., etc. Quand il y a eu les grands réveils de Pentecôte, il y a eu vraiment de puissants prédicateurs qui ont été utilisés par Dieu, mais au niveau d'enseigner les gens sur le ministère, vous voyez, par exemple, dans les années 50, il y a eu vraiment ce grand réveil de guérison aux États-Unis. Je lisais un commentaire il y a quelque temps sur ça. Il y a des gens qui mouraient prématurément parce qu'ils ne faisaient pas attention à leur santé. C'était des gens, par exemple, qui faisaient des réunions, qui avaient un succès immense. En particulier, je me souviens d'un certain témoignage de Jack Coe. Jack Coe, à l'âge de 36 ans, on disait qu'il avait le corps usé comme un homme de 90 ans. Pourquoi ? Parce que c'était quelqu'un qui bossait, mais d'une façon folle. Il se couchait à 3-4 heures du matin, des fois même à 6 heures du matin. Il dormait une partie de la matinée, puis après il recommençait à faire des réunions qui duraient mais des heures et des heures, des fois 3 réunions dans la journée. Il se nourrissait mal, juste à la fin des réunions, en début de matinée, dirions-nous, à 2 heures du matin, il mangeait parce qu'il avait faim, etc. Mais c'était très mauvais pour sa santé. Et finalement, cet homme, à son corps s'est usé très très rapidement. Et c'était une des raisons pour lesquelles il est mort prématurément. Bon, vous voyez, sur l'onction, il y a plein de choses aujourd'hui qu'on connaît à propos de la transmission de l'onction, de la réception de l'onction, des réunions d'onction qu'on peut voir à droite et à gauche parce que, bien, aujourd'hui, on a quand même pas mal de, de support d'enseignement. On peut voir des DVD, il y a des télé chrétiennes qui commencent à être partout le monde, on peut voir des prédicateurs qui commencent à voyager dans le monde entier parce que les moyens de communication sont de plus en plus évidents. Il y a un certain nombre de, je crois qu'il y en a 6 aux États-Unis qui ont des jets privés, des ministères qui ont des jets privés. Donc ce sont des ministères qui se déplacent très rapidement. Il y a quelques Nigérians aussi qui ont des jets privés. Mais c'est encore assez rare. Je ne sais pas si Yang Gisho en a un, mais c'est encore bon. Je dirais, c'est de plus en plus courant de voir des ministères, des très gros ministères, qui peuvent se déplacer sur la planète beaucoup plus facilement qu'il y a même 10, 15, voire 20 ans, où c'était quand même beaucoup plus épuisant. Parce que faire un voyage international, quand vous êtes obligé d'emmener toute votre logistique et qu'il faut passer par des compagnies, des machins, des trucs et des bidules, bon, c'est quand même beaucoup plus difficile. Donc aujourd'hui, on a la grâce de pouvoir avoir à peu près dans le monde entier des ministères bouger. Et donc voir l'onction en opération. Et ça, c'est quelque chose qui est très nouveau. Je vous dis, ça date de 10 ans, voire 15 ans, où vraiment beaucoup de prédicateurs internationaux ont commencé à bouger. Je parle de beaucoup en masse, non pas quelques-uns. Osborne, par exemple, a été un précurseur il y a plus de 50 ans, ou environ 50 ans, à l'époque où c'était le tout premier à faire des réunions de masse, d'évangélisation de masse. C'était l'initiateur. Mais aujourd'hui, je veux dire, c'est monnaie courante. On voit ça partout dans le monde. Des prédicateurs qui se déplacent du monde entier et qui viennent faire certaines choses, qui donnent des séminaires, etc., etc. Donc on a vraiment des moyens de communication qui nous permettent de voir tout un tas de choses et donc d'augmenter notre connaissance. Parce qu'une chose qui nous fait un peu peur en tant que chrétien, c'est toujours l'inconnu. Et d'ailleurs, le diable se sert souvent de ça. C'est-à-dire, quand on ne connaît pas quelque chose, par exemple, l'onction, quand elle est en manifestation, bah, quand on n'a jamais vu l'onction en manifestation, parfois, ça peut faire peur. Par exemple, quelqu'un qui n'a jamais vu un ministère comme Bénin et qui regarde la toute première fois comment il prie pour les gens, que les gens tombent par terre ou vibrent sous la puissance de Dieu, etc., etc., il y a des gens qui sont choqués au départ, extrêmement choqués. Bon, c'est sûr que quand on est habitué à ça, on dit, bah oui, c'est normal, c'est la puissance du Seigneur, c'est l'onction du Seigneur, parce qu'on le sait. On le sait, oui, parce qu'on l'a bien vu un jour. Il y a bien quelque chose, quelqu'un, il y a bien un ministère pour la toute première fois où on a vu l'onction en opération et on a vu certaines choses. Donc, on s'est accoutumé, on s'est habitué parce qu'on a vu, et ah oui, l'Écriture dit ça, ah, on a eu quelques enseignements, etc., etc. Bon, donc, cette connaissance, c'est super parce qu'elle augmente énormément et il est clair que le Seigneur prépare son retour au travers de cela dans le sens où il veut vraiment que l'onction se répandent de plus en plus sur toute la Terre. Et il est vrai qu'actuellement, nous vivons des choses que la Terre n'a jamais vécues jusqu'à présent, parce qu'il y a justement cette connaissance de l'onction qui se répand de beaucoup plus. Mais j'aimerais quand même dire une chose qui est très importante et qui doit vous aider. Il faut que vous sachiez que si vous voulez réussir votre vie chrétienne, ou si vous êtes dans le ministère, un jour ou l'autre, vous devez fonder votre vie sur 3 piliers. Donc 3 piliers, notez ça, indispensables pour réussir sa vie chrétienne et son ministère. 3 piliers indispensables pour réussir sa vie chrétienne et son ministère. Donc 3 piliers indispensables donc sur lesquels il faut construire sa vie chrétienne et son ministère, si on est dans un ministère. Le premier pilier, bien sûr, c'est la connaissance de la parole de Dieu. La connaissance de la parole. La connaissance de la parole. Deuxième, l'onction de Dieu. On a déjà entendu enseigner là-dessus, mais c'est plus qu'une révision, en tout cas pour certains d'entre vous. Deuxième, c'est l'onction de Dieu. Troisième, c'est le caractère de Christ en vous. Le caractère de Christ en vous. Donc numéro 1, la connaissance de la parole. Numéro 2, l'onction. Numéro 3, le caractère de Christ en nous. Et je ne pourrai jamais vous enseigner quoi que ce soit sur l'onction si je ne vous parle pas des deux autres. Ce sont 3 piliers qui sont indispensables. Parce qu'il y a des gens qui aiment l'onction, parce qu'on va voir que l'onction amène des choses absolument exceptionnelles. Mais s'ils ne sont pas fondés dans la parole, eh bien, ils vont commencer à enseigner tout et n'importe quoi. Ce qui va produire, eh bien, des choses, par exemple, comme Branham. Branham a dévié. Pourtant, c'était un homme puissamment loin de Dieu. Mais il a dévié parce qu'il n'avait pas la connaissance de la parole et il a commencé à vouloir enseigner des choses qui ont été des déviations totales et qui ont amené la ruine dans son ministère. D'autres personnes, eh bien, elles ont la connaissance de la parole, mais elles n'ont pas l'onction. Et pour exercer le ministère sans onction, nous verrons, c'est vraiment impossible. C'est comme vouloir faire rouler une voiture qui est vide, qui n'a pas d'essence. C'est strictement la même chose. Et puis, il y a des gens qui ont la parole, qui sont très forts dans la parole, qui sont très forts dans l'onction, mais qui n'ont pas le caractère. Et ça, c'est un problème. Et ils commencent à décoller, Dieu les utilise puissamment. Et au bout d'un moment, eh bien, c'est la chute. C'est la chute totale. Samson en est un exemple. Samson était puissamment loin, mais il n'avait pas le caractère. Il avait un gros problème, il y avait du péché dans sa vie. Il ne l'a pas réglé et il a complètement chuté. Alors, quand on enseigne sur l'onction, on ne peut pas enseigner que sur l'onction. On est obligé d'enseigner et de parler toujours du caractère ou de ramener, de rappeler régulièrement attention au caractère, de dire attention à la doctrine. Parce que rapidement, l'onction, ça amène de telles choses, ça nous amène de telles choses que on se dit, bah, finalement, il n'y a plus que ça. Et ça aussi, c'est un piège. Alors, la parole, c'est clair, je peux la recevoir comment ? Ben, je la reçois à l'Institut biblique et je la reçois par toutes sortes de moyens médiatiques. Donc l'Institut biblique, c'est-à-dire au travers du ministère d'enseignants, ça peut être dans un institut biblique, ça peut être dans un séminaire, ça peut être dans différents endroits où il y a un ministère d'enseignants, où on verra que l'onction d'enseignant est là en manifestation. Mais il y a bien sûr toutes sortes de moyens médiatiques aujourd'hui, par lesquels nous sommes enseignés. Les livres, les CD, les DVD, les télés, etc., etc., etc. Donc, les moyens médiatiques ne manquent pas. Internet, il y a de plus en plus de sites chrétiens aujourd'hui sur Internet qui essayent de nourrir le peuple de Dieu au maximum. Vous voyez, donc, tout ça, ce sont des moyens médiatiques qui nous permettent d'être enseignés dans la parole. Et il est vrai que de plus en plus, celui qui est médiocre dans la parole ne résiste pas longtemps. Il faut le dire. C'est-à-dire celui qui commence à enseigner des choses qui sont non scripturaires, de plus en plus, il est confronté à la vérité. Celui qui est ignorant quand il enseigne ou qui prêche, tout de suite, les gens commencent à dire « Ah, c'était pas génial, il manquait de connaissance. » Parce que les chrétiens, de plus en plus, ont de la connaissance de la parole dans le monde entier, et c'est une bonne chose. Il faut que cette connaissance augmente, c'est très important. Donc, la parole, je peux l'apprendre. Je peux l'apprendre, j'ai mes méditations personnelles, je suis guidé aussi par toutes sortes d'enseignements qui sont donnés, qui sont excellents, et il y en a de plus en plus autour de la terre, et ça c'est bon. L'onction, ça se reçoit. Et l'onction, ça se reçoit, et on va voir que cette onction, eh bien, va dépendre, dans certains cas, en tout cas pour le ministère, de la volonté de Dieu. Ça c'est clair. L'onction se reçoit, elle se capture si vous préférez. Et cette onction, c'est la présence tangible du Saint-Esprit. Donc c'est la présence tangible du Saint-Esprit en manifestation. L'onction, donc se capture, l'onction du Saint-Esprit, c'est la présence tangible, donc de Dieu, en manifestation. Et c'est elle qui permet à un ministère de produire des fruits. C'est elle qui permet à un ministère de produire des fruits. En d'autres termes, pas d'onction du ministère, pas de fruits du ministère. Donc pas d'onction du ministère, pas de fruits du ministère. On verra ce principe important, on le rappellera régulièrement. Parce que de plus en plus, vous allez avoir des cours sur le ministère, et donc ce sont des lois. Des lois du royaume de Dieu, inviolables. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui essayent encore aujourd'hui de passer outre ces lois et ça ne marche pas. Donc, onction du ministère amène production de fruits. Pas d'onction, pas de production de fruits au niveau du ministère. Et on verra qu'on peut appeler, on peut mettre toutes sortes de choses sur un bâtiment. S'il n'y a pas d'onction, s'il n'y a pas quelqu'un qui a une onction, et qui exerce son ministère là, eh bien, il n'y a pas de fruit. Il n'y a pas de fruit. Donc l'onction, ça va se recevoir. On parlera de l'onction individuelle, qu'on a en tant que croyant, d'accord ? Et après, on va parler de l'onction du ministère, parce qu'évidemment, c'est le ministère ici qui nous intéresse de plus en plus. Alors, l'onction, on verra, va se recevoir, l'onction du ministère se reçoit dans des temps particuliers, dans la présence de Dieu. Cette onction se reçoit, l'onction du ministère va se recevoir. Cette onction du ministère va se recevoir dans des temps particuliers, dans la présence de Dieu. C'est ce qu'on avait vu dans le ministère, je vous rappelle, la mise à part. Hein, vous vous rappelez, l'appel et la mise à part, la séparation. Et aussi, on verra que des chrétiens nés de nouveau peut et doit être au bénéfice de l'onction qu'il y a sur les ministères. Parce que c'est ça qui est important aussi. On verra que l'onction va se transmettre d'une certaine façon et d'une façon limitée vers les chrétiens. On verra ce principe aussi. C'est-à-dire que si vous êtes dans l'Église, il y a une onction pastorale, cette onction pastorale, vous en bénéficiez d'une manière ou d'une autre. Si par exemple vous allez dans une réunion de guérison, souvent vous allez récupérer, entre guillemets, si on peut s'exprimer ainsi, une partie de cette onction qui va rester sur vous peut-être quelques jours, ou qui va être là et Dieu va vous donner de faire certaines œuvres, mais sporadiquement. C'est-à-dire, ça sera une fois comme ça, et après cette onction ne restera pas. Ça ne va pas être une onction résidente. Nous expliquons cela aussi. Alors, avoir la connaissance de la parole, c'est super. Avoir une onction, c'est très bien, mais vous pouvez avoir une très forte onction du ministère, c'est super. Mais si vous n'avez pas le caractère de Christ en vous, qui se construit, vous exploserez. C'est clair, vous allez chuter. Donc le caractère, ça se forge. Le caractère de Christ se forge. Et René Howard Brown disait cela dans un de ses livres. Il disait, si vous priez pour avoir une grande onction, demandez d'abord à Dieu d'infuser le caractère de Christ en vous. Que ce caractère soit forgé en vous d'abord. Sinon, vous allez être une belle étoile filante. D'un seul coup, tout le monde va dire, ah, c'est formidable. Le Seigneur l'utilise. Il y a plein d'âmes qui viennent, il y a plein de guérisons, il y a plein de ceci, il y a plein de cela. Et un an, deux ans, trois ans plus tard, alors que la personne en est à son apogée, hein, apparemment, tout le monde parle de cette personne. D'un seul coup, c'est la grande chute et on n'entend plus parler de cette personne. Je pourrais vous donner des noms de certains ministères. Je me souviens de quelqu'un en particulier, dans les années 90, qui avait une église de 10 000 membres. 10 000 membres aux États-Unis. Et en quelques années, son église avait explosé de façon extraordinaire, avec des groupes de maisons. Vraiment, il était sur la scène, devant tous, entre guillemets. Tout le monde parlait de ce ministère. Aujourd'hui, même si vous cherchez sur Internet, vous ne savez même pas où il est. Personne ne sait ce qu'il est devenu. J'ai demandé à plusieurs personnes qui étaient de la région. On dit, je ne sais pas. On n'entend plus parler, on ne sait pas qui il est devenu. C'est un des exemples parmi tant d'autres. Manque de caractère. Et juste à cette époque-là, il commençait à avoir un scandale financier sur le dos. Donc le caractère va être quelque chose d'absolument indispensable. Parce que les cours que vous allez avoir, on va s'enfoncer de plus en plus dans le ministère, dans des choses du ministère, dans les principes du ministère. Et je vais vous montrer, il y a certaines choses devant lesquelles nous, les serviteurs de Dieu, nous sommes confrontés. Nous sommes confrontés par rapport à certaines choses qui sont très importantes. Et être dans le ministère, c'est pas une mince affaire, c'est pas un petit engagement. Nous le verrons. Les gens aime bien l'onction. Les gens applaudissent. Vous savez, moi, quand je vois un ministère comme Bénin aujourd'hui, c'est pas tellement les miracles qui m'impressionnent. Ce qui m'impressionne le plus, c'est de voir que cet homme, ça fait plus de 30 ans qu'il est sur la piste et qu'il a le plus gros ministère du monde et qu'il est toujours identique à lui-même. Toujours le même caractère, toujours à faire attention à ce qu'il fait, etc., etc. Toujours la même intégrité, toujours la même fidélité. C'est ça qui m'impressionne le plus chez lui. Et les premières fois que j'ai vu son ministère, bien évidemment, ce qui m'impressionnait le plus, c'était de voir des paralysés sortir de leur chaise roulante, c'était de voir des aveugles voir, des sourds entendre, etc., etc. Aujourd'hui, ce qui m'impressionne le plus, c'est son caractère. Parce qu'aujourd'hui, il a plus de 5 ans, et je crois qu'il a 54 ou 55 ans. Et c'est un homme qui est resté sur la piste, malgré toutes sortes de tempêtes par lesquelles il est passé. Quand vous voyez un homme comme Osborne a plus de 80 ans aujourd'hui, c'est un homme qui a eu un parcours quasiment impeccable au niveau du ministère. Ça, ce sont des références, vous voyez, parce que ces gens-là ont eu un caractère forgé devant les tentations, forgé devant les moments difficiles, forgé alors que tout commençait à s'écrouler. Parce que sachez que c'est tous ces ministères-là, vous voyez, vous dites, ah, c'est formidable, ah, ils sont comme ça, ah, Dieu les utilise comme ça, d'accord. Mais vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils ont vécu. Et chaque ministère a vécu des choses très difficiles. Sachez-le. Il n'y a personne que vous voyez sur la scène internationale aujourd'hui qui porte des fruits, qui a devant, pour qui tout s'est passé sans rien. C'est juste comme ça. Hein. Ça a été comme s'il vivait sa petite vie chrétienne tranquille. Ça, ce sont des choses dont on ignore beaucoup. Beaucoup. J'ai entendu parler d'un prédicateur qui est au Texas à Dallas. Un jour, il a une église de 5000 membres. Une belle église, c'est un très bon prédicateur, et maintenant je pense qu'il a dans les 60 ans. Et un jour, cet homme, eh bien, ils étaient en train de s'occuper de construire leur église, et son fils était en train de faire du bricolage dans l'électricité. Et son fils a été électrocuté, il est mort. Comme ça, soudainement. Beaucoup de ces prédicateurs-là que vous voyez ont vécu des tragédies. Beaucoup d'entre eux ont été trahis. Beaucoup ont leur a menti. D'autres ont été abandonnés. Un jour, Bénin raconte que. Ils avaient au début de son ministère, il était à la télévision au Canada, il racontait qu'il y a eu un moment où ils étaient couverts de dettes et toute son équipe a démissionné, je pense au fin ou deux, enfin quelques-uns qui sont restés fidèles, qui sont encore là aujourd'hui. Tous les autres ont fui. Et c'est dans les moments difficiles que vous voyez les vrais amis. Il y a beaucoup de choses, vous savez, il y a beaucoup de choses que les gens ignorent. Et c'est pour ça que au niveau du caractère, c'est ce qui vous permettra de rester sur la piste. Vous voyez, la parole et l'onction vous mettent sur la piste de votre destinée. Ça, c'est clair. Quand vous avez un appel de Dieu, ce qui va vous mettre sur la piste, bon, l'apprentissage de la parole, c'est un élément important. Mais c'est pas, vous savez, c'est pas le diplôme de l'école biblique qui fait trouver un ministère. Vous savez tous. Vous avez compris, je vous l'ai dit une fois, vous savez dans l'écriture. Maintenant, quelqu'un peut recevoir une onction du ministère, ça veut dire que Dieu le met sur la piste. Mais ce qui va aider cette personne à rester sur la piste de sa destinée, c'est son caractère. C'est pas autre chose. C'est pas le nombre de miracles, c'est pas le nombre de conversions qu'il va avoir, c'est pas le succès qu'il va avoir, c'est son caractère. C'est son caractère qui lui permettra de rester sur la piste. S'il n'a pas le caractère de Christ, il ira dans le fossé. Des fois, il se relèvera et repartira sur la piste. Et après, peut-être qu'il retournera encore dans le fossé. Et certains vont dans un fossé et ne se relèvent jamais.
Jamais, jamais, jamais. Ça existe. C'est triste. Hein, je vous raconte des choses tristes aujourd'hui. Oui, bah, il faut que vous ayez conscience de certaines choses. Parce que quand on parle d'onction, les gens sont tout de suite sont très intéressés. C'est normal d'être intéressé par l'onction. Mais l'onction ne fait pas tout. Mais l'onction est indispensable. Ça, c'est clair. Donc, il est sûr que quand on voit tout ça, on s'aperçoit que le royaume de Dieu et servir dans le royaume de Dieu, c'est pas une mince affaire. C'est une immense responsabilité. C'est pour ça que voir des gens qui sont là, qui veulent des étiquettes ou qui veulent de la popularité, ce sont des gens qui n'ont rien compris. C'est des gens qui ne comprennent strictement rien à ce qu'est le ministère. Et d'ailleurs, ils ne réussissent jamais dans le ministère. Parce que comme nous le verrons, le ministère est surnaturel. C'est pas quelque chose de naturel. Ça va découler d'un appel, d'une formation, d'une onction et d'un caractère qui est forgé au milieu de l'adversité totale et au milieu de la tempête, au milieu où rien ne semble avancer, au milieu des pires tempêtes, etc. etc. Et c'est là où on forge son caractère en tant que ministre de Dieu. Alors, que veut dire le verbe « oindre » ? Notez que le verbe « oindre » dans le grec du Nouveau Testament, le verbe « oindre » dans le grec du Nouveau Testament, c'est le verbe cryo. Cryo, ça s'écrit S-H, c'est le verbe cryo qui s'écrit C-H-C-H-R-I-O. C-H-R-I-O. Donc le verbe oindre dans le grec du Nouveau Testament, c'est le verbe cryo ou shrio si vous préférez. C-H-R-I-O. Ça signifie se frotter avec de l'huile ou du parfum. Se frotter avec de l'huile ou du parfum. Alors Christ, c'est un dérivé justement. Christ, c'est un dérivé de cryo, donc de ce verbe oindre. Christ, c'est un des dérivés de cryo, du verbe oindre en grec, et ça veut dire celui qui est oint. Donc quand on dit Jésus-Christ, ça veut dire Jésus, celui qui est oint. Celui qui est oint. Chrétien, ça veut dire petit Christ, donc ça veut dire petit oint. Chrétien, ça veut dire petit Christ ou petit oint. Quelqu'un qui est oint. Et qui est un petit oint, Jésus étant celui qui est suprêmement oint. Alors, dans l'Ancien Testament, on se oignait pour se consacrer.
on se oignait dans l'Ancien Testament pour se consacrer à Dieu ou consacrer des objets. Proverbe 27, verset 9. L'huile et le parfum réjouissent le cœur. C'est un signe de réjouissance.
Aussi, quand quelqu'un se mettait de l'huile, quand quelqu'un se mettait du parfum, c'était aussi un aspect de joie, une huile de joie, nous dit la parole de Dieu. Psaume 92, verset 11. Et là, c'est un synonyme de puissance. Tu élèves ma force comme celle du buffle. Je suis arrosé d'une huile fraîche. Je suis oint d'une huile fraîche, d'une fraîche onction. Donc, c'est clair qu'il y avait une relation aussi. L'onction avec la joie, l'onction avec la puissance. L'onction avec la consécration. Alors, l'onction, là, je vous donne des définitions. J'essaie d'englober un peu ce que représente l'onction. Dans Luc 4, Luc chapitre 4, on va voir un petit peu donc ce pourquoi l'onction est faite. Parce que vous savez, l'onction, il y a beaucoup de gens qui, quand ils voient l'onction, surtout quand il y a l'onction de joie par exemple, bon, ils aiment bien ça, mais on a l'impression que les gens prennent ça plus à la légère, comme une sensation sympathique, quoi, voilà, etc., etc. Et en fait, c'est trompeur. C'est très trompeur. Ou des gens qui disent il y a l'onction, donc les gens tombent et d'un seul coup ils se sentent dans une paix immense, etc. Bon, gloire à Dieu. Mais l'onction doit produire quelque chose. C'est ça qui est très important. Je vous enseignerai jamais l'onction du côté sensation. C'est vrai que l'onction produit des sensations, ça c'est clair, et ça se voit clairement, mais ce n'est pas l'objectif de l'onction. L'onction n'est pas là pour agir sur le côté émotionnel. L'onction est là pour qu'il y ait des fruits. Maintenant, il y a comment dire en anglais, un byproduct, c'est-à-dire un effet secondaire qui est le fait dans nos sentiments de ressentir quelque chose de spécial. Ça, tout à fait d'accord. De toute façon, quand on est touché puissamment dans notre esprit, il y a obligatoirement quelque chose qui va se produire dans nos sentiments. Mais malheureusement, les gens ont tendance à le côté sentimental plutôt que de chercher réellement le produit de l'onction. Et c'est là où il faut faire attention. C'est là où ça devient dangereux d'ailleurs. On en parlera aussi. Il faut vraiment faire attention. Parce que la Bible nous définit l'aspect de l'onction comme étant porteur de fruits. Regardons ensemble dans Luc chapitre 4. Là, c'est très significatif. Ce passage est très très fort au niveau de l'objectif du pourquoi de l'onction. Donc, verset 14, il est dit « Jésus retourna en Galilée avec la puissance du Saint-Esprit. » La puissance du Saint-Esprit, c'est l'onction. On nous verrons. Et sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Il entra selon sa coutume dans la synagogue le jour du sabbat et se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe et il ouvrit le livre et trouva le passage où il était écrit. Regardez bien maintenant verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Je vous rappelle que je vous avais donné une définition générale de l'onction que je vous ai répétée régulièrement dans les cours comme étant une mesure de l'Esprit de Dieu qui vient habiter dans un croyant ou qui vient sur un croyant, pour que ce croyant puisse se tenir dans une position et remplir une fonction que Dieu lui a assignée. Vous avez noté cette définition bien des fois, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais là, on voit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il m'a oint, et après il va y avoir une série de pour. C'est ça que je veux que vous souligniez ce soir. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, onction pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Donc vous voyez, Jésus dit, je suis oint pour faire ça. Donc voilà ce que cette onction va produire au travers de ma vie. Une onction doit être productrice de quelque chose, de fruits pour le royaume de Dieu, pour la gloire de Dieu. Une onction, ce n'est pas un jouet. Une onction, ce n'est pas une sensation. Une onction, ce n'est pas une langue. Mais une onction va amener la présence tangible de Dieu à faire porter des fruits.
pour que le royaume de Dieu avance. Ça, c'est la raison d'être de l'onction. Maintenant, il y a tout un tas d'effets, entre guillemets, secondaires de l'onction. On est tout à fait d'accord. Le fait que quelqu'un tombe par terre, que quelqu'un rit d'une façon incontrôlable, oui. Les langues, oui, etc., etc. Tout ça, ce sont des effets de l'onction, d'accord. Mais ce n'est pas l'objectif. Vous voyez, ici, Jésus est clair. En résumé, qu'est-ce que ça dit ici? Ça vient clairement dire que, finalement, l'onction va amener la compassion de Dieu en action dans la race humaine. L'onction amène la compassion de Dieu en manifestation, en action pour la race humaine qui est en train de se mourir. Cette race humaine qui est désespérée. C'est ce que Jésus dit ici. Ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui sont opprimés, ceux qui sont liés, etc., etc., etc. Aux aveugles, le recouvrement de la vue, ceux qui ne voient pas, dans le sens spirituel, comme dans le sens naturel, etc., etc. Donc l'onction doit produire quelque chose pour la gloire du Seigneur. L'onction n'est pas un jouet. L'onction n'est pas une manifestation, l'onction n'est pas une langue. Mais l'onction produit des fruits pour que la compassion de Dieu puisse se manifester et que les hommes puissent trouver des solutions divines à leurs problèmes. Ça, c'est l'onction, c'est le but de l'onction. En dehors de cela, si nous nous focalisons sur autre chose, c'est que nous ne sommes pas scripturaires et c'est dangereux. C'est dangereux. Très dangereux. Et c'est ce que ça parfois a apporté dans certains endroits que Dieu a visités, où des gens se sont focalisés sur des choses, des manifestations. On ne se focalise pas sur les manifestations, on se focalise sur les fruits. Ici, vous avez le résumé des fruits du royaume de Dieu, dans ce passage. Pour. Voilà la raison pour laquelle Jésus a été loin. C'est pas pour faire plaisir, c'est pas pour faire guili-guili, c'est pour que des gens soient puissamment transformés. Que des gens portent des fruits pour le royaume de Dieu et qu'ils soient dans la gloire de Dieu. Vous voyez la différence? Et c'est important parce que on a tendance à entendre parfois certaines personnes qui dévient et même qui enseignent des choses qui sont complètement tordues par rapport à l'onction. Ne regardez pas les manifestations, regardez toujours les fruits. Les fruits, les fruits, les fruits. Jésus, là, il est clair. Il lit Ésaïe 61 et c'est très clair. Il y a une raison pour laquelle Jésus a été loin. Voilà. Jésus nous donne dans ce passage. Alors, l'onction, c'est quelque chose de tangible. L'onction est quelque chose de tangible, c'est-à-dire quelque chose que l'on ressent. Que l'on ressent, c'est touchable, c'est palpable. C'est Dieu qui touche une personne et cette personne ressent cela. Et nous verrons que une des grandes choses que nous ressentons, bien sûr, c'est comme si c'était de l'électricité, il faut le dire. C'est très clair et c'est clair que si les écrivains du Nouveau Testament étaient venus en notre temps, avaient écrit pour notre temps, avec la connaissance que nous avons au niveau de la science, l'électricité, c'est vraiment quelque chose de très... Il y a beaucoup d'analogies au niveau de l'électricité et de l'onction. La façon dont l'énergie est stockée, la façon dont elle est libérée, la résistance électrique, etc. etc. Il y a des analogies incroyables à propos de l'onction et la façon dont l'onction circule. L'onction coule ou peut couler sur des gens envers qui on exerce un ministère. Il y a beaucoup, beaucoup d'analogies. Alors, tangible, donc, ça veut dire touchable, palpable, d'accord? Ça, c'est quelque chose que vous devez savoir quand j'utilise ce terme, touchable, palpable. Rappelez-vous, cette femme qui avait cette perte de sang, dans Marc 5, elle touche le bord du vêtement de Jésus et elle sait qu'elle est guérie, elle ressent quelque chose. Parce qu'il y a des gens qui disent, ah non, tout ce qui est, quand vous ressentez quoi que ce soit, tout ça, non, non, c'est des histoires mystiques, de sorcellerie, de tout ce que vous voulez, on ne peut pas ressentir des choses avec Dieu. Il y a des gens qui raisonnent comme ça. Vous entendrez ce genre de commentaires. Des gens qui ne croient pas que Dieu peut toucher un être humain et que cet être humain ressente quelque chose. Et souvent, les grands ministères de guérison, c'est leur grand cheval de bataille. On essaye de les accuser en disant, mais les gens disent qu'ils ressentent quelque chose. Ah, donc vous parlez de sensation. Non, on parle pas de sensation. On parle que Dieu est tangible. Et le fait que Dieu soit tangible, on ressent. Quand quelqu'un est guéri, il le ressent quand il est guéri par l'onction. Parce qu'il y a la puissance de Dieu qui vient et qui soit recrée une toute ou partie d'un membre ou soit expulse la maladie et la personne ressent cette puissance. Et ça, c'est tout à fait scripturaire. Donc, l'onction de Dieu va être quelque chose de tangible, plus ou moins fortement tangible. Et quand c'est trop fort, d'ailleurs, l'homme ne résiste pas. Comme disait Catherine Kuhlmann, à qui on posait des questions en disant « Mais pourquoi dans votre ministère, ce qui n'était pas très courant à l'époque, pourquoi dans votre ministère, quand vous priez pour les gens tombent par terre ?» Et elle essayait d'expliquer cela, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'enseignements sur l'onction. Et c'était pas facile pour ces prédicateurs-là, parce que s'ils faisaient une certaine déclaration qui n'était pas comprise, eh bien, on allait afficher ça partout, en disant « Ah, cette personne a dit ceci ou cela », et on venait les accuser derrière tout ça. Aujourd'hui, c'est sûr que le corps de Christ a beaucoup plus de connaissances et qu'on peut dire « Non, non, mais tel ministère a exactement les mêmes manifestations ou tel ministère... » Bon. Donc, les gens se calment beaucoup plus facilement et comprennent à partir du moment où ils ont un cœur ouvert. Il y a toujours des gens qui critiquent hautement, qui raconteront tout et n'importe quoi. Ça, c'est tout à fait clair. Mais Catherine Kuhlmann disait « On a l'impression que c'est comme si ces gens-là étaient d'un seul coup branchés sur une superpuissance et comme une superpuissance, l'homme ne peut pas... peut pas emmagasiner beaucoup d'énergie, c'est comme si d'un seul coup vous aviez un éclair par exemple qui tombait, la foudre qui tombe quelque part, etc. Les choses ne résistent pas et l'homme ne résiste pas à ce moment-là et c'est pour ça que ce Dieu tout-puissant qui vient et qui donne une sorte de décharge électrique sur une personne va foudroyer en quelque sorte cette personne, mais c'est limité, heureusement d'ailleurs. C'est pour ça d'ailleurs que notre corps ne pourrait jamais supporter la pleine gloire de Dieu. C'est pour ça que notre corps doit mourir avant d'aller au ciel, et que seulement nous pourrons être à nouveau en trois dimensions, comme nous l'avons vu dans Dispensation, quand nous aurons notre corps ressuscité et glorifié, parce que celui-ci n'aura jamais connu la corruption, c'est-à-dire qu'il sera parfaitement divin, ce qui correspondra parfaitement à l'éclat de la gloire de Dieu. Donc, il y aura une possibilité de voir Dieu en trois dimensions, en étant en trois dimensions, face à face. Mais pour ça, il faut que nous passions par la résurrection. Nous l'avions déjà vu. Alors, notez que l'onction manifeste la compassion de Christ, l'amour de Dieu pour l'humanité. L'onction manifeste la compassion de Christ, l'amour de Dieu pour l'humanité. L'amour de Dieu pour l'humanité. L'onction, c'est une autre idée aussi, va être le développement. L'onction va être le développement de notre relation avec le Saint-Esprit. L'onction va être le développement de notre relation avec le Saint-Esprit. Alors ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut découvrir. L'onction n'est pas un truc dont on peut se servir. Et c'est étonnant parce que quand des gens sont puissamment loin, parfois ils peuvent faire de sérieuses gaffes. Parce que c'est quelque chose que Dieu met à leur disposition, comme nous le verrons. Dieu met certaines choses à notre disposition, un certain pouvoir, il faut le dire. Et parfois, certaines personnes ont commencé à dévier et ont abusé de ce pouvoir et sont tombées malheureusement très bas. Et c'est pour ça que l'onction doit être la sensibilité à cette onction. Si on veut que Dieu nous utilise jusqu'à notre dernier souffle et que cette onction puisse croître dans notre vie quand on l'a reçue, il faut qu'on fasse très attention, il faut que ce soit le développement régulier d'une relation avec le Saint-Esprit. Ça, c'est très important aussi à comprendre. Quand les gens commencent à prendre l'onction comme « bon, ça me fait du bien, c'est super, c'est génial, ok, d'accord », mais qu'à côté de ça, ils ne travaillent pas leur relation avec le Saint-Esprit, donc ils commencent à dévier dans des trucs, ou qu'ils désobéissent délibérément, ou qu'ils se mettent dans le péché, là on revient dans le caractère, à ce moment-là, ce qu'ils vivent comme expérience sera quelque chose de terrible après. Leur vie après sera vraiment médiocre, nulle. Ils tomberont très bas. Parce que quand vous commencez à marcher dans l'onction, on verra que l'ennemi va venir vous attaquer. Et si vous ne faites pas attention, C'est là où ça peut être extrêmement dangereux. Et vous risquez, si vous ne vous sanctifiez pas, si vous ne développez pas votre relation avec le Saint-Esprit, c'est extrêmement dangereux parce que là, l'ennemi vous attendra et vous allez tomber et ça fera très, très mal. Moi, j'ai vu des gens bien marcher avec le Seigneur, d'un seul coup, être touchés par une onction puissante et vraiment, ça a décollé d'une façon extraordinaire dans leur vie ou dans leur ministère. Et comme ils ne développaient pas leur relation avec le Saint-Esprit, comme ils ne se sanctifiaient pas non plus, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont chuté. Et quand on les voit aujourd'hui, ils sont dans une condition bien pire que quand ils marchaient avec le Seigneur, bien sûr. Et des fois, ils s'écartent du Seigneur, etc., etc. Il y a vraiment des choses qui sont dures, qu'on peut voir parfois chez certaines personnes qui sont touchées. C'est pour ça que je vous dis, l'onction, c'est extraordinaire. Ça vous amène dans des hauteurs fantastiques. Mais attention, ça peut vous amener aussi parce que, vous savez, quand vous êtes propulsé quelque part, si on ne vous tient pas bien, ben vous risquez de descendre très bas. Voilà. Et ça, c'est malheureusement ce que les gens oublient. Ce que les gens oublient, il faut faire très attention. C'est pour ça que cette relation est très importante. J'admire beaucoup le ministère de Bénin et celui de Rodney Howard Brown pour cela, parce que c'est des gens qui ont une relation avec le Saint-Esprit absolument extraordinaire, qui ont développé cette relation avec le Saint-Esprit vraiment de façon, dans une maturité absolument fabuleuse. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Alors, notez que l'onction est donnée. L'onction est donnée pour détruire les joues sataniques. L'onction est donnée pour détruire les joues sataniques. Pour détruire les joues, les fardeaux, si vous préférez, les esclavages sataniques. Alors, ces esclavages sataniques sur l'homme, c'est quoi? Les esclavages sataniques sur l'homme, c'est quoi? C'est le péché, bien sûr. C'est la maladie. Donc, péché, maladie, tristesse, dépression, oppression. Donc, le péché, maladie, la tristesse, la dépression, les oppressions démoniaques, tout ce que vous voulez, tout ce qui est joug satanique. L'onction est là pour détruire ces choses. Et il y a plusieurs versets qui nous le montrent. Regardons Ésaïe 10, 27. Ésaïe 10, 27. Ça, c'est un verset qu'il faut vous approprier aussi, très important. Vous savez, il y a des versets clés sur l'onction. Là, je vous les donne rapidement. Mais ce sont des versets clés sur l'onction sur lesquels vous devez méditer. Ce que Jésus a dit dans Luc 4, vous avez plutôt intérêt à méditer dessus. Là, ce qu'on va lire sur ces passages-là, d'Ésaïe 10, verset 27, et après on verra Actes 10, 38, ce sont des passages importants. Regardons Ésaïe 10, 27. En ce jour-là, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Vous voyez, quelque chose qui vient d'un autre sur toi. L'onction fera éclater le joug. C'est l'onction qui fait éclater les joues sataniques, les fardeaux, tout ce qui peut être un esclavage. Tu peux avoir la libération dans l'onction. L'onction est faite pour ça. Pour détruire. Regardons ensemble. Vous savez, Dieu est un Dieu de construction, mais aussi Dieu est un Dieu de destruction. Il détruit les œuvres sataniques dans nos vies. Et heureusement d'ailleurs. Le premier joug dont il nous a libérés, c'est le joug du péché. Ce sera l'onction de la nouvelle naissance qui fera ça. Et de la condamnation. Entre autres. Acte 10, 38. Un très beau verset aussi qui nous parle du ministère de Christ. Il nous parle de l'onction. Vous savez comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. Donc, toutes les oppressions sataniques, L'onction va détruire ces choses. L'onction est faite pour détruire les joues sataniques dans nos vies. Ça, c'est une fonction de l'onction. C'est ce que le Saint-Esprit veut faire et fait dans la vie des croyants. À partir du moment où ils savent fonctionner dans leur onction, dans leur propre onction, en tant que croyants, et aussi profiter, bénéficier, ce qui est normal pour un croyant, de l'onction des ministères. Donc ça, c'est ce que l'onction peut faire et doit faire sur nos vies. Alors maintenant, on va voir les différentes onctions de l'Ancien Testament. 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 Alors, quand on étudie les différentes alliances dans l'Ancien Testament, on voit que les onctions sont toujours en rapport avec les alliances que Dieu va faire avec les hommes. Donc, dans l'Ancien Testament, les différentes alliances vont avec les différentes onctions. C'est-à-dire que Dieu donne des onctions par rapport aux alliances qu'il fait avec l'homme. Jusqu'à la loi, il n'y avait que deux onctions en opération. Jusqu'à la loi de Moïse. Il n'y avait que deux onctions en opération. Dans la loi, il y avait trois onctions en opération. Alors, je vous rappelle que d'Adam et Ève jusqu'à la loi, il y a 2500 ans. Vous vous rappelez de ça? Il y a différentes alliances que Dieu va faire, suivant les dispensations. Et on voit qu'à partir de la chute, on a quelques bribes de gens qui sont loin jusqu'à la loi. Ces deux onctions, c'est onction prophétique, donc du prophète, et onction de sacrificateur. Ces deux onctions, donc, onction du prophète et onction du sacrificateur. Alors apparemment, ces onctions étaient très rares. Par exemple, Abraham était prophète. Regardons ensemble. Genèse 20, verset 7. Abraham était prophète. Genèse 20, verset 7. C'est Abraham qui a quelques petits problèmes. S'il s'est mis dans des problèmes, il va dire que sa femme est sa sœur pour pas qu'on en prenne à sa vie. Et verset 7, il est dit « Maintenant, rends la femme de cet homme, car c'est un prophète. » Car c'est un prophète. C'est la première fois que cette expression apparaît. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres prophètes. Mais Abraham était prophète. C'est clairement mentionné dans la parole. Et au temps d'Abraham, dans Genèse 14, verset 18, on a la mention de quelqu'un qui exerce un sacerdoce. 14, verset 18. Quelqu'un qui est connu, qui s'appelle Melchisédek. Et on va voir que Melchisédek, lui, était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Et apparemment, avec Abraham, il connaissait le même Dieu, c'est clair. Le vrai Dieu vivant. Donc 14-18, il est dit « Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. » Donc ici, il servait le Seigneur. Rappelez-vous, à l'époque, il n'y avait pas encore de peuple d'Israël, il n'y avait pas encore de peuple de Dieu. Il y avait des gens qui connaissaient Dieu parce qu'ils avaient une transmission orale de Dieu. Et apparemment, Dieu mettait certaines onctions sur certaines de ces personnes. Mais très peu. Donc nous savons qu'Abraham se tenait dans la fonction de prophète. Et pour être prophète, il faut obligatoirement avoir une onction. Melchisédek se tenait dans la fonction de sacrificateur du Dieu Très-Haut. Et il était clairement reconnu par Abraham et approuvé par Dieu. À partir du moment où quelqu'un est approuvé par Dieu dans un ministère, dans une fonction, dans un sacerdoce quel qu'il soit, ça veut dire obligatoirement que l'approbation, c'est quoi? C'est l'onction divine. Alors, c'est les quelques mentions qu'on a dans l'Ancien Testament, avant la loi. Ensuite, Dieu va, dans la loi, mettre en fonction un certain nombre de personnes qui auront une onction. Nous savons que dans le peuple d'Israël, qui lui n'était pas né de nouveau, je vous le rappelle. Donc, les hommes, depuis Adam et Ève, jusqu'à la résurrection de Christ, nous le savons, n'étaient pas nés de nouveau. Donc, le peuple d'Israël, dans la loi, quand nous lisons la loi de Moïse, quand nous lisons l'histoire du peuple d'Israël, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques, etc., etc., même dans les prophètes, nous savons une chose, c'est que le simple citoyen israélite n'était pas né de nouveau. Donc, il n'était pas oint. Par contre, Dieu a pris certaines personnes, entre autres de la tribu de Lévi, pour les sacrificateurs. Les prophètes venaient de différentes tribus, mais on sait qu'au niveau des onctions, d'abord, il y a eu deux onctions qui ont été en fonctionnement, jusqu'au moment où Dieu a donné une onction royale. Et cette onction royale, il l'a donnée au premier roi d'Israël, qui est Saül. Et nous allons voir comment Dieu a ordonné à un prophète de oindre un roi. Et c'est le premier événement dans la Bible où on voit qu'il va y avoir une onction royale. Ce qui, pour l'instant, n'existait pas. Et ça va aller avec l'alliance. Dieu savait qu'un jour, ce peuple, le peuple d'Israël, leur demandait un roi. Il l'avait prophétisé dans le Pentateuque. Donc, il le savait qu'un jour, ce jour-là viendrait. Israël, au bout d'un moment, effectivement, a demandé un roi. Il ne voulait pas seulement que Dieu règne sur eux directement. Il voulait quelqu'un qui représente Dieu pour le peuple, le roi. Donc, les deux onctions, on les voit fonctionner pleinement jusqu'à la loi. Puis, le peuple d'Israël, peuple élu de Dieu, promesse terrestre de la descendance d'Abraham, géographiquement réunis dans le pays promis, pays de Canaan. Alors, ce peuple qui a la connaissance de Dieu et qui doit garder la connaissance de Dieu et qui doit transmettre la connaissance de Dieu, qui a le premier écrit fait par Moïse, ce peuple, lui, avait des gens consacrés et c'était ordonné par Dieu. Dans le prochain cours, nous verrons comment ce premier roi a été oint, etc., etc.
Enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.